muito importante.
Isso fica de arquivo de
trecho. Vamos chegar. On y va alors
oui.
C'est bon, c'est tout branché, tout ça. Alors voilà, oui, donc je voulais essayer de présenter un sujet en rapport avec les animaux, donc quelque chose dont on parle pas forcément souvent, parce qu'on pense surtout à l'élevage, à la mise à mort, etc. Mais là, c'était un peu s'interroger sur la question des territoires, de là où on vit, et de comment ils s'organisent par rapport aux humains, les animaux entre eux, par rapport à différents problèmes, quoi. Alors bon, je vais faire une présentation des questions qui se posent, puis après donner un peu mon avis sur la question. Enfin, bon, ce sera pas très long, hein, parce que de toute façon, bon, je vais pas faire une conférence, quoi, et puis c'est pas forcément... C'est plutôt des idées à lancer, c'est plutôt théorique, alors il n'y a pas forcément non plus beaucoup de choses à dire dans l'immédiat, plutôt des choses à réfléchir, quoi. Et voilà. Alors bon, ça peut être un peu décousu, parce que j'ai refait ça en plusieurs fois. Donc oui, les questions qui se posaient, alors... Donc j'ai intitulé, donc quel territoire, quels aménagements pour les animaux et les humains, donc... C'est-à-dire comment partager les territoires. Bon, on observe qu'habituellement les vies sont assez séparées entre les différentes espèces, disons. Il y a les animaux sauvages qui sont de leur côté, il y a les humains, il y a les animaux qui vivent avec les animaux qui sont exploités par les humains. Donc tout ça c'est très sectorisé, un peu comme les différentes classes. Et dans tout ça, après on peut se demander est-ce qu'une intégration, une espèce d'unité, une intégration est possible ou pas, est-ce qu'elle est souhaitable, est-ce qu'il faudrait viser une espèce de retour à la nature entre guillemets, c'est-à-dire une liberté totale où chacun fait ses affaires de son côté, est-ce qu'il faudrait d'artificialisation entre guillemets, d'humanisation entre guillemets, c'est-à-dire de tout organisé selon des vues humaines. Mais là, bon, il y a le problème de l'intérêt des animaux, de la prise en compte de leurs souhaits, comment connaître leurs souhaits, leurs besoins, est-ce qu'il y a d'autres voies, etc. Donc, et puis, bon, le problème aussi, ça peut après recouper d'autres choses donc, qui ont déjà été évoquées, le problème... avec la nature, le côté de l'antinaturalisme, enfin de ce qui avait été évoqué dimanche, là, c'est ça. Est-ce que la nature peut évoluer? Est-ce qu'on doit le faire? Comment? Enfin, bon, ça se recoupe. Donc, après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, voilà, on observe, bon, c'est pour revenir sur ça, on observe donc à l'heure actuelle que les rapports entre animaux et humains sont très conflictuels. Et donc par rapport notamment aux questions de territoire et de cohabitation. La plupart du temps, donc, les humains ont chassé et donc tué les animaux donc, depuis très longtemps. Ils ont pris ensuite leur place, généralement. Ils ont installé des systèmes de plus en plus sophistiqués avec l'agriculture, la sédentarisation, la domestication, qui sont devenus maintenant donc, l'élevage industriel avec toutes les horreurs qu'on connaît. Et puis il y a d'autres peuples qui ont été apparemment plus tolérants, comme les Amérindiens, mais bon, peut-être on peut se dire aussi, c'est parce qu'il y avait tellement de place que la question ne se posait pas vraiment, c'était peut-être une culture différente, enfin bon. Enfin, donc, en tout cas, à l'heure actuelle, il y a une vision dominante qui est celle de type occidental, de toute façon, et qui, de toute façon, prend toute la place. Et de toute façon, les peuples d'Amérique en Australie, enfin, pas en Australie, en vrai, dans le bush là-bas, c'est déjà encore pire qu'ailleurs. Donc, j'ai un peu du mal. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que même les peuples primitifs qui auraient des cultures différentes sont petit à petit assimilés, de toute façon, par, par la technique, etc. Donc, c'est une donnée générale, un modèle qui s'impose partout, quoi. Voilà. Moi, je lis un peu mon plan, parce que sinon, j'arrive pas, j'oublie des choses. Donc, en fait, dans la pratique, les humains se considèrent comme propriétaires de la Terre et de tous les habitants animaux qui s'y trouvent, quel que soit le règne animal. Bon, ils se considèrent aussi propriétaires des sols et de tout, quoi, en fait. Donc, ce qui fait que tout est partagé en propriété, etc. La moindre parcelle est à quelqu'un ou à un État, ou alors bon, il y a les eaux internationales, mais enfin, bon, elles sont aussi exploitées. Et donc, en plus, chaque parcelle, on observe que chaque parcelle est l'objet de conflits, de commerce entre les humains, qui a succédé au conflit avec les animaux, quoi. Bon, mais là, les humains vont facilement le dessus, parce qu'avec les armes, etc., donc, des tas d'animaux ont disparu, ils ont été éliminés, etc. Et donc là, le conflit continue entre les humains et les animaux qui restent aussi, quoi. Donc je disais, il y a en fait, les animaux ont été divisés en trois classes par les humains, avec chacun un type de territoire différent. Il reste encore les animaux sauvages, là, qui ont des territoires plus grands, et mais ils sont quand même assez libres. Ils ont l'inconvénient d'être chassés. Et de toute façon, bon, leur espace est aussi grignoté petit à petit par l'expansion humaine, par l'exploitation des forêts notamment, etc. Et puis bon, on peut aussi considérer que la vie des animaux sauvages, c'est ce qu'a dû dire Yves Bonnardet, je pense, dimanche, quoi, n'est pas forcément idyllique, quoi, parce que déjà, ils doivent subir pour beaucoup la prédation, les cycles d'entre-dévération dits naturels, etc. Et déjà, la nature aussi n'est pas forcément très tendre, etc. Parce que bon, il y a quand même une certaine dureté, quoi. Conditions climatiques, ils n'ont pas forcément d'abri, etc. Tandis qu'après, bon, par exemple, l'eau de la deuxième classe, qui sont les animaux de compagnie, d'un certain côté, on pourrait dire qu'ils sont plus tranquilles, puisque là, ils ont la nourriture et le toit qui est assuré. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même pas génial non plus, parce qu'ils subissent quand même beaucoup, là aussi, la domination des humains, qui les traitent un peu en objet de distraction. Ils sont enfermés souvent en ville dans les appartements où ils sont pas forcément bien, quoi. Ça dépend, bon, des types d'animaux aussi, hein. Surtout le pire, bon, c'est par exemple les poissons qui sont dans des bocaux ridicules, ou les animaux qui ont besoin de, je sais pas, les gens qui ont des animaux exotiques dans des conditions effroyables, etc. Donc c'est pas non plus forcément une meilleure solution que les animaux sauvages, quoi. Après, bon, la troisième classe qui a été là est carrément créée par les humains, c'est-à-dire c'est tous les animaux d'élevage qui sont destinés à la consommation humaine ou animale ou à des différents sous-produits. Et là, bon, évidemment, eux, c'est le rien de rien, c'est des objets purs, donc ils ont droit à rien, ils n'ont aucun territoire, ils ont juste 10 cm carrés pour vivre. Donc ce sont des purs objets, quoi. Et eux, ils ont de toute façon, pas se défendre, évidemment. Tandis que bon, les animaux de compagnie, bon, éventuellement, ils ont des moyens, un peu de pression, ils peuvent arriver à grignoter quelques avantages, disons. Comme les animaux sauvages, les humains décident parfois de les aider, de les protéger, mais enfin, c'est selon l'intérêt des humains, et puis c'est en plus lié à essayer de contrebalancer les effets destructeurs de la culture humaine, donc bon, c'est un peu un cercle vicieux. Sinon, on peut observer que la colonisation et l'exploitation humaine ont, la plupart du temps, en quelque sorte, déformé et détruit les territoires pour le profit des humains. Tout a été mis en coupe réglée selon des objectifs, donc de production, c'est-à-dire l'uniformisation, le bétonnage, avec les pollutions qui s'en suivent. Donc de toute façon c'est comparable à ce que vivent les humains, quoi. Parce que Là aussi, bon, pour les humains, il y a le même système qui est identique. Donc il y a différentes classes. Il y a des prolétaires qui ne sont pas voués à la boucherie parce que là, on n'ose plus trop. Mais enfin, sauf quand il y a des guerres ou quand certains pays qui ont encore des formes d'esclavage. Mais bon, les prolétaires, par exemple, ils n'ont possédé quasiment rien au point de vue territoire. Bon, ils ont éventuellement, pour certains, des maisons, enfin, des petites maisons ou des immeubles où ils peuvent en droit de s'empiler. Dans des conditions éventuellement pénibles. Il y a des classes moyennes qui ont des petites parcelles de territoire un peu plus grandes, puis après, dans des immeubles un peu mieux, ou des petites maisons préfabriquées, ils peuvent se serrer. Et il y a aussi des humains, là, je disais, il y en a de moins en moins, donc des humains plus ou moins sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire les peuples qu'on dit primitifs, qui vivent selon une culture différente, dans les forêts, etc. Et bon, eux, ils se font petit à petit exclure et grignoter par la masse, quoi. Et à côté de ça, donc il y a la classe là aussi la classe d'humains qui domine un peu le monde, quoi. C'est-à-dire les riches propriétaires, enfin, les gens qui sont au-dessus, qui eux se considèrent au-dessus des autres, et c'est ça, et qui eux possèdent à peu près, enfin pas tout, mais disons beaucoup de choses, qui ont plus de droits que les autres, quoi. Bah, disons que c'est un parallèle un peu frappant, disons, entre le sort des animaux et le sort des humains, disons. Voilà. Alors bon, tout ça, c'est un peu le constat, donc, qui est assez évident, en fait, quand on regarde un peu les choses, quoi. Mais bon, en fait, le problème, c'est qu'on l'oublie, peut-être un peu, parce que du fait qu'on est habitué à ça, et puis qu'il y a des... Il y a des choses éventuellement plus horribles, immédiatement horribles, qui sont l'élevage avec la mise à mort des animaux directement. Bon, maintenant, après, alors, la question, c'est comment faire autrement dans tout ça, quoi. Et bon, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Alors, comment j'ai passé ça? Donc déjà, bon, après, ça dépend aussi de la vision qu'on a des animaux. Mais. Si on considère que les animaux donc sont des personnes, sont des individus qui ont des droits, qui ont des choses à faire sur Terre, qui ne sont pas seulement là pour servir l'homme, qui ont des objectifs éventuellement dans la vie, à leur niveau. Et donc moi je considère aussi qu'ils ont du sens pour eux-mêmes, pour les autres animaux, pour les humains aussi. Et après, d'un autre côté, bon, y a la Terre et donc toutes les différentes formes de territoire. Et comment concilier ça, quoi, la question. Et donc mon idée, c'est que, personnellement, maintenant, c'est que la Terre n'est pas un espèce de réceptacle indifférencié, quoi. C'est pas une surface neutre qui serait là comme ça, quoi, comme une espèce de décor. Où on pourrait faire absolument ce qu'on veut, disons, sans tenir compte des structures existantes. Donc ça veut dire à ce moment-là que la Terre n'est pas, pour moi, ni une structure figée, comme le considèrent certains écologistes, enfin la plupart, une structure où avec des lois et des écosystèmes qui tournent en boucle avec l'entrée-libération, et puis... et que c'est quelque chose de très bien qui ne peut pas, changer, où chacun a sa place, bon, voilà, c'est très bien comme ça, il y a telle bestiole qui mange de l'herbe, après qui se fait bouffer par une autre, qui elle-même se fait chasser par une troisième, etc. quoi. Et bon, mais c'est pas une structure figée, et c'est pas non plus quelque chose qui est complètement éthéré, enfin qui est complètement... malléable, enfin comme si c'était une pâte à modeler complètement différenciée, quoi. Et donc à partir de là, donc c'est à dire que la surface de la Terre est en quelque sorte organisée en espèce de structure qui existe, donc on peut pas nier, et qui porte elle-même quelques indications sur la manière dont tous les êtres pourraient vivre ensemble, sur la manière donc de se nourrir, de vivre, quoi. Par exemple, on peut se dire que si on considère la façon dont fonctionne la nature, que l'idée d'instaurer des frontières étanches entre les gens, au niveau des États ou à d'autres niveaux, est complètement absurde. L'idée de la propriété privée est complètement absurde, puisque la nature ne peut pas se découper en tranches, tout est interconnecté, l'eau circule dans tous les sens, l'air aussi, les animaux aussi, les humains aussi, les plantes, les graines, les bidules. Et l'idée de tout découper en morceaux fait un espèce de... comment dire, c'est comme si vous aviez une sculpture artistique et que, je sais pas, vous la cassiez à coup de marteau, et après en essayant de faire des lignes avec les morceaux, quoi, pour dire que ça ressemble à quelque chose, quoi. Donc, la façon dont les humains structurent l'espace est complètement contradictoire avec le fonctionnement de la nature, puisque, il n'y a pas d'optimisation possible, quoi. Tout est morcelé, chacun essaie de tirer la plus grosse part pour soi, sans se soucier des autres humains et encore moins des animaux, évidemment. Donc voilà, c'est... dans la nature, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont importants, on ne peut pas les accaparer. L'eau, par exemple, il n'y a pas telle catégorie de population ou d'industrie qui va accaparer l'eau, on voit bien tous les problèmes que ça pose déjà à l'heure actuelle. Quoi. Et donc dans le système actuel, c'est vraiment très, très conflictuel, quoi, tout ça, et très destructeur pour tout le monde. Quoi. Après, l'idée de ces structures, c'est qu'il faudrait les redécouvrir et les étudier de plus près, donc en allant plus loin, de manière différente que les écologistes, de manière à y voir plus clair, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu théorique quelque part, quoi. Il faudrait aussi étudier davantage pour y voir plus clair, parce que il y a quand même beaucoup de questions. Et donc il faudrait arriver à les sortir un peu de l'espèce de gang qui a été mise en place par les humains et aussi les animaux à leur manière aussi. Parce que bon, surtout les humains, il y a une telle... surtout maintenant, ils ont de tels moyens techniques qui ne se préoccupent pas des choses, quoi, qui ratiboisent, qui détruisent, qui font un peu n'importe comment, des fois bien, des fois pas bien, enfin surtout souvent, malheureusement, trop souvent pas bien. Et donc tout ça, ça brouille quand même, ça brouille les choses, donc c'est quand même très difficile d'arriver à redéfinir ces espèces de structures, quoi. Donc alors quand je parle de structure, pour moi, c'est-à-dire que... il existe, à mon avis, une espèce de maillage assez étroit et spécifique à la surface de la Terre qui peut être décrit à plusieurs niveaux, plus ou moins suivant leur surface en quelque sorte. Donc un des niveaux le plus important, surtout par rapport aux humains, c'est ce qu'on peut appeler après comme on veut, mais on peut l'appeler micro-nation, disons. Donc ça serait une espèce d'unité territoriale qui comprendrait à la fois les peuples animaux et humains sur la base donc d'une unité. Bon, pour les humains, ce serait la langue, la culture, le mode de vie, tout ça. Bon, et puis après, l'unité par rapport à la végétation, au climat, à la géologie. Et donc ces unités, elles seraient de la taille plus petite qu'un département français, quoi, beaucoup plus petit, parce que pour qu'il y ait une unité, ça peut pas être très grand, parce que le climat, tout change très vite, quoi. Bon, après, ça dépend des régions, évidemment, des airs, ça dépend. Et puis, il y a d'autres raisons aussi, c'est que cette unité de micronation, par rapport aux humains, c'est l'unité qui serait le siège de la démocratie directe, quoi, l'unité de base de la communication et de la démocratie entre les humains. Et plus grand, c'est pas possible, quoi, parce que pour pouvoir avoir une démocratie directe, ça ne peut pas se faire à grande échelle. Quoi. Et donc au-dessus, bon là ça concerne surtout les humains, ce serait une espèce de fédération, de nation, qui là aussi pourrait être déterminée par des unités culturelles et géographiques plus vastes, comme par exemple l'Occitanie, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, ce genre de Catalogne, enfin ce genre d'unités apparemment qui semblent toujours exister. Bon, malgré l'entreprise de lamination des États, etc. Donc là, comme les unités sont plus grandes, elles ont été moins facilement effacées que les unités plus petites. Alors au-dessous, ce qui est peut-être plus intéressant dans ce cadre-là, donc, par rapport aux humains, donc, il y a les villes et les villages à l'intérieur de ces micronations. Ensuite, il y a, pour les humains, il y a les communautés. Pour moi, l'unité de vie des humains, ce serait la communauté autour de 10 personnes. Et ensuite, par rapport aux animaux, donc là, à mon avis, déjà, il n'y aurait plus de frontières entre les classes d'animaux, puisqu'on abolirait ces classes. Donc, on pourrait imaginer que chaque communauté humaine vivrait en une espèce de proximité avec une série d'animaux, qui ne seraient pas forcément les animaux de compagnie habituels, hein, peu importe les espèces. Ce serait une communauté humaine qui serait élargie, disons, à un certain nombre d'animaux qui vivraient de manière plus proche, un peu comme nos animaux de compagnie, mais disons, qui seraient quand même plus libres dans leur mouvement, disons, dans leur capacité d'organisation. Et il y aurait une espèce de communication, disons, assez proche entre un groupe d'humains et d'animaux en même temps. Et ensuite, il y aurait d'autres manières d'organiser aussi. Ce serait en reprenant donc l'idée des écosystèmes des écologistes, c'est-à-dire des unités plus restreintes que ces micronations, qui sont un espèce d'ensemble d'animaux qui interagissent entre eux. Mais là, on essaie de les transformer justement pour qu'ils. On ne peut pas tout faire à la place des animaux, mais disons, les inciter et les aider à ce qu'il y ait une espèce d'auto-organisation symbiotique ou autre qui sorte petit à petit de l'entrée des variations, du fait qu'ils soient obligés de s'entretuer pour se nourrir, qu'ils aient des problèmes d'abri, qu'ils subissent trop les climats. Donc, les animaux et les humains aussi, donc pour les aider, les animaux pourraient arriver certainement à s'organiser pour créer, pour comment dire, transformer un peu la nature en quelque sorte, leur habitat, pour que ce soit beaucoup plus confortable pour eux, quoi. Et donc dans ces écosystèmes, l'idée c'est que là c'est toutes les espèces qui sont concernées, c'est pas par catégorie d'espèces. Donc c'est pour dire que c'est une espèce, comment dire, c'est une organisation un peu pas pyramidale, mais comme les gigognes, disons, tout est interconnecté, donc il y a des écosystèmes entre animaux qui sont organisés, il y a des humains avec des animaux plus spécifiquement, il y a des micronations, etc. Voilà. Donc mon idée aussi, donc ma conception du monde, c'est que... C'est ça. C'est de la graine. Donc ma conception du monde aussi, c'est que... Comment dire, les humains et animaux ne sont pas seulement sur Terre pour jouir de la vie et vivre confortablement sans se nuire les uns les autres. Bon, si c'était ça, ce serait déjà beaucoup mieux que ce qui existe actuellement. Mais je pense que les humains et les animaux aussi, à leur manière, ont des choses à faire, des choses à construire entre eux, etc. Que les humains ont un rôle à jouer par rapport aux animaux, que les animaux ont un rôle à jouer par rapport aux humains, qui sont pas là simplement pour décorer, qui peuvent certainement apprendre beaucoup de choses, bon, vous me direz comme tout élément de la nature, mais plus les animaux, puisque ce sont des personnes. Et voilà, comment après on pourrait en parler davantage. Voilà, ça. On va vous entendre. Bon, c'est bientôt fini. Hein, mais... Ouais, je dépêche de finir. Ben bon, la conclusion, c'est que quand on commence à réfléchir à la prise en compte de l'intérêt des animaux et encore plus bon, aussi des humains, c'est que... On va y arriver. Vous attendez, hein? Voilà, il n'y a pas de problème. Ah, c'est... Voilà, là, ça va vite. Donc la conclusion, c'est que quand on commence à réfléchir à la prise en compte de l'intérêt des animaux par rapport au territoire, c'est-à-dire qu'ils aient de quoi vivre décemment, comme les humains d'ailleurs, c'est qu'on est obligé de réfléchir à cette façon d'organiser les choses, que ça implique donc très rapidement de remettre en cause radicalement donc, le système humain tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que ça, ça implique carrément de remettre en cause la propriété privée, le capitalisme, etc. Je sais pas comment on pourrait faire autrement dans un système capitaliste et basé sur la propriété privée de pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde tranquillement sans qu'il y ait de conflits, de rapports de classe, etc. Ouais, là c'est.
Ça lui
plaît
pas,
c'est un encombrement, un encombrement. Ouais, bah si, on va beaucoup de trucs à dire. C'est bon, là. Donc voilà, ça veut dire aussi que le sort des humains et des animaux est très lié, beaucoup plus qu'on ne le croit, je pense. Et donc tout ça applique aussi, comme j'ai déjà dit, bon, c'est pour conclure, sortir du naturalisme traditionnel, donc de considérer la nature uniquement comme un décor ou comme un truc figé, une espèce de, pour certains, qui est érigé en dogme, une sacralisation de ce qui existe, disons, de lois qui seraient inéluctables dans notre dévoration, dans tout ça, quoi. Et puis ça, donc, par exemple, bon, ça pourrait aussi, après c'est plus concret. J'avais fait une liste un peu d'exemples, en fait ça rejoint ce qu'on avait déjà dit. Et bon, après, évidemment, après, ça implique une transformation collective, quoi, parce que pour faire tout ça, mais après peut-être qu'à plus petite échelle, il peut y avoir éventuellement des choses qui peuvent se commencer. J'avais noté ça, oui. Bon, ça rejoignait ce que faisait peut-être par exemple la vie universelle ou d'autres. Donc faire des aménagements un peu pour essayer les choses, disons à échelle plus réduite, du système de nourrissage, d'abri. La faute est tombée. Réfléchir à l'agriculture, à la façon de se nourrir, vers le partage des ressources, des fruits de l'agriculture, etc. La façon de construire, etc. Sinon on se rapproche.